Rappelez-vous, un éléphant n'oublie jamais rien.
Pourriez-vous rien oublier par mes gardes?
Vous dites des sottises, me gère. Un éléphant n'oublie jamais rien.
Ah oui, vous venez d'oublier notre enfant.
Oh oui, notre fils, oui, à mi-tour.
Ah oh papa, attention!
Voilà, pourquoi des éléphants, pourquoi le livre de la jungle à la une de la science? Eh bien, c'est pour parler du patrimoine culturel des animaux et pour mieux les protéger. Une vaste question, donc à la une, Axel, aujourd'hui.
Oui, Mathieu, que ce soit la mémoire des lieux chez les éléphants, les chants des oiseaux ou même les préférences sexuelles chez la mouche, de nombreux travaux ont démontré qu'il existait chez l'animal une forme d'apprentissage social, une hérédité culturelle. Et dans un papier publié cette semaine dans la revue Science, un groupe de scientifiques se demande comment prendre en compte cet aspect dans notre manière d'interagir avec les animaux. Et pour en parler, pour comprendre cette partie souvent oubliée de ce que nous appelons l'évolution, nous recevons l'écologiste du comportement, Étienne Danchin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite pour le CNRS au laboratoire Évolution et Diversité Biologique à Toulouse. Alors, quand est-ce que les biologistes et les naturalistes ont commencé à parler de patrimoine culturel ou de culture chez l'animal ?
Alors, chez l'animal, ça date d'à peu près, ça a commencé sérieusement dans les années 80. Et puis maintenant, c'est un mouvement qui est très clairement en accélération, avec beaucoup de recherches qui se font sur l'existence de phénomènes culturels, donc de transmission sociale de génération en génération, chez les animaux et chez tout type d'animaux, puisque vous avez cité différentes espèces.
Et comment est-ce qu'il faut comprendre cette notion plus concrètement? Qu'est-ce que c'est le patrimoine culturel d'un groupe de merles ou de dauphins, par exemple?
Alors justement, au départ, on définissait la culture d'une manière très centrée sur l'humain, et donc cette définition était peu appropriée à l'étude des animaux. Et du coup, on a assez négligé ce problème chez les animaux. Mais en fait, un moyen de le redéfinir de manière plus générale, c'est de se concentrer sur l'essence même du processus culturel. C'est quoi l'essence même du processus culturel? Eh bien, c'est le fait que c'est une transmission sociale. Si je parle français avec vous là maintenant, c'est parce que mes parents me parlaient français. Et j'ai appris, et puis mes voisins, etc., cette langue par mes congénères. Eh bien, c'est ça le phénomène culturel. Et quand on se focalise sur ce phénomène principal qu'on appelle l'apprentissage social, l'apprentissage par les autres, en imitant les autres, eh bien, on se rend compte que ce processus de transmission existe chez beaucoup d'animaux, beaucoup plus qu'on ne le pensait au départ.
Alors, dans l'actualité récente, comme exemple, on peut citer une étude de primatologues suisses parue la semaine dernière. Ils ont observé des groupes de chimpanzés et ils montrent que plus ce groupe vit proche des hommes et moins son patrimoine culturel est développé. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça?
Alors, c'est clair que une culture se développe dans un habitat donné, et quand cet habitat est fortement chamboulé, dans le cas présent par la présence d'humains dans les environs, eh bien, cette culture peut être complètement érasée, détruite par le fait que, bon, par exemple, les individus, imaginez qu'il y a un système de chasse qui fasse que les chasseurs visent plutôt les anciens, ceux qui ont le savoir, qui vont donc transmettre, eh bien, on peut très rapidement déstabiliser le système et donc faire disparaître la culture animale. Ça peut expliquer très bien cette situation particulière qui est décrite dans cet article.
Plus globalement, l'homme est délétère pour le patrimoine culturel animal dans le monde?
Ça serait un peu rapide de le dire, mais là, c'est la première fois qu'on met en évidence le fait que si on compare la diversité des cultures, des différentes manières de se comporter, des populations de chimpanzés, selon qu'ils sont proches ou loin de l'activité humaine, eh bien, il y a une relation très forte. Plus ces populations sont proches des populations humaines, moins elles ont une culture diversifiée, complexe. C'est très surprenant, en fait.
Il est important aussi de comprendre que ces connaissances sociales dont vous parlez pour les animaux, c'est un moyen de survivre. Chose que nous, pour les hommes, quand on parle de culture, on a un peu oublié.
Alors ça, c'est tout à fait vrai. C'est un moyen de s'adapter à l'environnement. Hein. Si mes parents ont survécu en cassant des noix très nourricières avec des pierres, eh bien, c'est la preuve. Le fait que je sois là, c'est la preuve même que c'est efficace. Et donc, moi, en tant que jeune qui me développe, j'ai intérêt à imiter, à copier la manière de faire de mes parents. Et c'est un moyen d'être, par définition, très rapidement adapté à mon environnement. Et si mon environnement change un petit peu, eh bien, les congénères vont s'adapter. Et moi, jeune, en train d'apprendre à survivre dans le milieu dans lequel je vis, eh bien, en imitant mes anciens, les anciens qui sont là, le simple fait qu'ils soient anciens et qu'ils soient là, montre qu'ils ont été efficaces, qu'ils ont survécu. Donc c'est un très très bon, une très bonne stratégie que de copier les anciens qui ont le savoir.
Une fois qu'on sait ces choses-là et qu'on a pris en compte cette composante de l'évolution, comment on applique ces connaissances pour mieux interagir avec les animaux, mieux les protéger ?
Alors c'est assez compliqué, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que la diversité, qui est la matière première de l'évolution, hein, c'est la base même de la sélection naturelle et donc de l'évolution et donc de l'adaptation, eh bien cette matière première, cette diversité, elle est sensible à plein d'éléments de contexte, elle est supportée par plein de mécanismes différents. Quand je parle de diversité, eh bien les gens pensent tout de suite génétique, mais en fait il y a aussi d'autres formes de diversité transmises de génération en génération qui sont transmises par d'autres canaux, par d'autres systèmes. On parle d'avatars, d'autres canaux de support d'information. Et le phénomène culturel en est un, par exemple. Là, le support, eh bien, c'est la transmission, c'est le copiage, c'est le lien social, en fait, qui génère cela.
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des programmes de conservation qui prennent vraiment concrètement en compte ces éléments, par exemple laisser vieillir des individus ou faire moins de bruit à certaines périodes pour que les oiseaux puissent apprendre à chanter à leur descendance ?
Tout à fait, hein. Ces deux exemples sont tout à fait ont été étudiés et sont vraiment réels. Le fait d'avoir une population qui perd ses anciens, eh bien, ça peut complètement déstabiliser la structure, la culture générale. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'homme où cela s'est passé. Hein. On sait très bien que les Romains savaient faire des choses et que pendant le Moyen-Âge, on ne savait plus faire. Je pense au ciment, par exemple, aux manières de construire les bâtiments. Eh bien, les Romains avaient inventé une espèce d'équivalent du ciment. Et donc, on a complètement oublié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des périodes de troubles à la fin de l'Empire romain. Période de troubles qui ont entraîné, qui ont déstabilisé le système. Il n'y a plus la transmission culturelle classique d'enseignants à jeunes, etc. Et en conséquence, on a perdu cette information et il a fallu des siècles pour la retrouver. Donc, c'est un phénomène très général chez l'humain, mais qu'on peut tout à fait imaginer chez bien d'autres espèces. Et ça peut expliquer, par exemple, l'exemple que vous avez discuté au début, de la disparition de la plus faible diversité des comportements culturels chez les chimpanzés quand ils sont proches des populations humaines.
Merci beaucoup, Étienne Danchin. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS dans ce laboratoire, donc Évolution Diversité Biologique de Toulouse. Merci beaucoup. Et puis Axel, on se retrouve lundi.
Oui, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, un coup de frein sur la technique CRISPR d'édition de l'ADN. Un groupe international de scientifiques et de bioéthiciens, parmi lesquels la Française Emmanuelle Charpentier, a signé hier dans la revue Nature un appel au moratoire concernant l'utilisation des fameux ciseaux à ADN sur l'embryon. L'utilisation de CRISPR chez l'homme est sur le point d'échapper à tout contrôle, précise-t-il. L'OMS pourrait également mettre le pied dans la porte et appuyer cette initiative, car le 18 mars prochain, un groupe d'experts se réunit à Genève pour débattre des défis scientifiques, éthiques, sociaux et légaux de l'édition du génome, une affaire donc à suivre. Les cochons de Stonehenge, il y a 4000 ans en Angleterre, les hommes ont érigé de gigantesques monuments de pierre et de bois et depuis nous cherchons à comprendre pourquoi. Eh bien dernièrement, de grandes quantités d'os de cochons découvertes dans des fosses à proximité laissent penser que se tenait en ce lieu de gigantesques fêtes. Dans une étude parue aujourd'hui, des chercheurs ont analysé ces os et conclu qu'ils viennent d'un peu partout en Angleterre. Chacun apportait donc son ou ses cochons comme contribution au banquet. Et puis pour terminer, une pièce de monnaie en l'honneur de Stephen Hawking, pour célébrer l'anniversaire de sa mort il y a un an tout juste, la gravure représente un trou noir surplombé de la fameuse équation décrivant l'entropie de ces objets, équation cruciale que nous devons à l'astrophysicien anglais. La pièce en argent ne sera pas mise en circulation, elle sera en vente exclusivement sur le site de la Royal Mint en charge de frapper la monnaie britannique.